Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 9Artree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Parler pour que les ados écoutent, écouter pour que les ados parlent est un guide de communication familiale consacré aux années de transition vers la vie adulte. Dans la continuité des travaux de Adèle Faber et Elaine Maslisch sur les relations parents-enfants. Cet ouvrage adapte une démarche pratique aux tensions propres à adolescence, besoins accrus de liberté, conflits autour des règles. Émotions intenses et distances parfois difficiles entre parents et jeunes. Son objectif ne consiste pas à promettre une obéissance immédiate ni à fournir une doctrine éducative complète. Il propose plutôt des habiletés de dialogue destinées à préserver le lien tout en permettant aux adultes de tenir leur rôle. Les auteurs privilégient des exemples de situations ordinaires, des contrastes entre réactions peu utiles et formulations plus constructives, ainsi que des supports visuels et des fiches de rappel. Le livre traite notamment de l'écoute des émotions, de coopération, des limites, des alternatives à la punition, de l'autonomie et de l'image de soi. Il se présente donc comme une boîte à outils pour réduire les affrontements répétitifs sans effacer les désaccords réels. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, accueillir les émotions avant de chercher une solution. Le livre part d'une difficulté fréquente face à la colère, au découragement ou à la provocation. Un parent tente souvent de corriger, relativiser ou résoudre immédiatement le problème. Or, un adolescent qui se sent disqualifié peut se fermer davantage, même si le conseil proposé est raisonnable. La démarche de Faber et Maslisch invite donc à reconnaître le vécu avant de discuter du comportement ou de la décision à prendre. Mettre des mots simples sur une frustration. Écouter sans interrogation excessive et laisser un espace de réponse peuvent diminuer la nécessité pour le jeune de défendre son émotion par une escalade. Cette position ne revient pas à approuver tous les actes ni à faire du parent un confident sans cadre. Elle établit une distinction utile entre entendre un sentiment et céder à une demande. Un adolescent peut être très mécontent d'une règle et rester tenu de la respecter. Cette séparation aide à conserver une conversation possible lorsque le désaccord demeure. Le propos est concret car il vise des interactions où les adultes ont tendance à moraliser trop vite. Le livre rappelle ainsi que la qualité de l'écoute conditionne souvent la possibilité de parler ensuite de responsabilité, de sécurité ou de conséquences. La communication devient moins une technique de persuasion et davantage une manière de traiter le jeune comme un interlocuteur capable de participer à la recherche de solutions. Deuxièmement, transformer les affrontements quotidiens en demandes de coopération, les conflits récurrents autour des tâches, des horaires, du rangement ou de la participation familiale constituent un terrain central de l'ouvrage. Les auteurs opposent aux reproches globaux et aux sermons des demandes plus précises, centrées sur le fait à traiter. Cette modification est importante, une accusation sur le caractère du jeune appelle souvent une défense, tandis que la description d'une situation concrète rend plus visible ce qui doit être fait. Le livre privilégie aussi les choix limités, les informations utiles et la formulation claire des attentes. Ces procédés ne garantissent pas une coopération instantanée, mais ils réduisent les messages humiliants et les luttes de pouvoir. La logique consiste à faire comprendre la nécessité de la contribution plutôt que de multiplier les injonctions. Pour les adolescents, cette nuance compte particulièrement, car il revendique une place plus autonome dans la famille, tout en restant dépendant de son organisation matérielle. Le parent ne renonce donc pas à demander une participation, il cherche un langage qui laisse aux jeunes une marge de dignité et de responsabilité. Le livre ne présente pas la coopération comme une harmonie permanente. Il reconnaît implicitement que des refus subsistent et que les règles doivent parfois être réaffirmées. Son apport réside dans une méthode de désescalade, limiter les étiquettes, viser le problème présent et ouvrir lorsque cela est possible. Une discussion sur les modalités pratiques. Troisièmement, poser des limites fermes sans faire de la punition le moteur éducatif. Une idée structurante du livre est que la fermeté et le respect ne sont pas incompatibles. Les parents ont à intervenir face aux comportements dangereux, irrespectueux ou contraires aux règles familiales. Toutefois, Faber et Maslisch mettent en question la punition comme réponse automatique, notamment lorsqu'elle produit ressentiment, dissimulation ou désir de revanche plutôt que compréhension. Leur approche cherche des conséquences liées à la situation, des moyens de réparation et une clarification des limites. Cette orientation ne signifie pas absence de conséquences. Elle demande au contraire que l'adulte distingue son irritation du problème éducatif à résoudre. Une réponse utile vise à protéger, à restaurer ce qui a été abîmé et à aider le jeune à envisager une conduite différente. Dans le contexte adolescent, cette perspective est particulièrement pertinente pour les sujets chargés tels que sortie, usage de substances, fréquentation, sexualité ou respect des horaires. Ces thèmes exigent parfois une décision parentale non négociable, surtout lorsqu'il y a un enjeu de sécurité. Le livre défend alors un cadre explicite, accompagné d'explications et d'écoute, plutôt qu'une domination verbale. La limite gagne en lisibilité quand elle est formulée sans menace vague ni attaque personnelle. Cette démarche ne supprime pas le mécontentement d'adolescents, mais elle évite de confondre autorité avec humiliation. Elle favorise une responsabilité progressive, car le jeune est invité à mesurer les effets de ses choix au lieu de se concentrer uniquement sur la sanction. Quatrièmement, soutenir autonomie et estime de soi sans abandonner le rôle parental, adolescence modifie la répartition des décisions au sein de la famille. Le jeune veut davantage choisir ses activités, son apparence, ses relations et son organisation, alors que les parents continuent de répondre de sa sécurité et de son développement. Le livre aborde cette tension en encourageant une autonomie graduelle. Au lieu de décider systématiquement à la place de l'adolescent ou de lui transmettre des solutions toutes faites, le parent peut solliciter son jugement, reconnaître ses compétences et lui laisser des domaines de responsabilité adaptés. Cette pratique a une valeur relationnelle, elle indique que le jeune grandit et que son point de vue mérite examen. Elle a aussi une valeur éducative, car apprendre à décider suppose de faire face à des choix et à leurs résultats. Les auteurs relient ce mouvement à une forme de compliment descriptif. Plutôt que de distribuer des jugements flatteurs mais généraux, elle privilégie la reconnaissance de efforts, de initiatives et de faits observables. Une telle parole peut aider l'adolescent à construire une image plus nuancée de ses capacités. Le livre alerte également contre les étiquettes répétées, par exemple paresseux, difficile ou irresponsable. Elles risquent de figer une identité et de transformer un comportement temporaire en rôle familial. Il propose de repérer des occasions où le jeune peut agir autrement et être vu autrement. Le but est moins de valoriser sans réserve que de créer des conditions où responsabilité, compétence et confiance peuvent se renforcer mutuellement. En dernier lieu, faire de la résolution de problèmes un espace de dialogue familial, le livre ne suppose pas que toutes les difficultés se règlent par une bonne formule. Lorsque un conflit persiste, il propose une démarche de résolution conjointe, écouter les préoccupations de chacun, définir le problème de manière partageable. Imaginer plusieurs pistes, puis choisir une solution réaliste à réexaminer. Cette séquence déplace la discussion. Au lieu de désigner un coupable ou de chercher qui aura le dernier mot, elle rend visible le besoin de chaque partie et les contraintes qui limitent les options. Dans une famille, cela peut concerner le partage des tâches, les horaires, les dépenses, la place des écrans ou les conditions de sortie. La méthode est utile seulement si le parent conserve une responsabilité claire pour les questions de protection et de maturité. Une négociation ne peut pas rendre acceptable une situation dangereuse. En revanche, de nombreux désaccords portent sur des modalités et non sur des principes absolus. Ils peuvent donc bénéficier d'une recherche de compromis. Cette dimension distingue le livre de conseils centré uniquement sur la discipline. La communication y est conçue comme une pratique répétée, qui demande aux parents de réfléchir à leurs propres réflexes et aux adolescents de prendre part aux décisions qui les concernent. Les bandes dessinées, exercices et fiches de rappel servent précisément à rendre ces habiletés utilisables hors du livre. Leur intérêt est de permettre une expérimentation progressive, plutôt que de présenter la relation familiale comme un problème résoluble par une règle unique. En conclusion, cet ouvrage convient surtout aux parents de préadolescents et adolescents qui souhaitent sortir de cycles de cris, de sermons, de retraits ou de bras de fer. Il peut aussi intéresser les professionnels de l'accompagnement familial, les éducateurs et les personnes qui travaillent avec des jeunes, dans la mesure où son sujet central est la relation et non un modèle familial particulier. Son bénéfice pratique réside dans le passage de principes généraux, tels que respect ou bienveillance, à des gestes de langage identifiables, écouter une émotion, formuler une demande, fixer une limite, décrire un effort, éviter une étiquette et chercher une solution commune. Cette précision permet aux lecteurs de repérer leurs automatismes sans les réduire à de mauvais parents. Le livre reste à envisager comme un outil, non comme une réponse suffisante aux situations de souffrance psychique, de violence, de dépendance ou de danger, qui peuvent demander une aide spécialisée. Par rapport à de nombreux guides de parentalité, il se distingue par sa présentation très opérationnelle et par son refus de opposer autorité et qualité du lien. Il ne recommande ni permissivité ni contrôle permanent. Il montre comment une limite peut être maintenue dans un échange où l'adolescent est pris au sérieux. Ces exemples visuels, ces fiches et ces exercices facilitent le retour au texte au moment où une situation concrète se présente. La force durable de cette approche est de traiter le dialogue comme une compétence à pratiquer, y compris lorsque parents et adolescents ne sont pas du même avis. Si vous souhaitez soutenir Adèle Faber, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.